Vous écoutez On lit pour vous.
Élargir sa zone de confort, puis en sortir. Un texte d'Alain Gosselin, paru le 1er octobre 2024 dans La Presse. Judith, une lectrice, pose cette question. Récemment, j'ai eu une conversation informelle avec mon patron qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il m'a fait réaliser que j'étais, depuis un certain temps, dans une zone de confort au travail. Il craignait que cela se transforme en démotivation avec le temps. Comment dois-je réagir? Votre patron a démontré qu'il se soucie de votre motivation et, implicitement, de votre développement à long terme. C'est une bonne nouvelle. Mais vous avez raison de rester un peu perplexe face à ces préoccupations. Sortir de sa zone de confort, tout comme penser en dehors de la boîte ou avoir le droit à l'erreur, sont devenus des mantras utilisés par nombre de coachs et de gestionnaires, sans pour autant indiquer concrètement ce que cela signifie et implique pour la personne concernée. Voici trois façons d'alimenter votre réflexion et d'envisager la suite. Prendre conscience de votre zone de confort. Aux yeux de votre patron, vous êtes dans un contexte où vous seriez en confiance et en sécurité. Bien que cela puisse mener à une certaine routine, il y a aussi l'avantage que les attentes sont bien définies et que l'incertitude ou les risques anticipés relèvent du domaine du connu, ce qui contribue certainement à votre performance au travail. Vous êtes donc en pleine maîtrise dans votre travail. Alors, rester par choix dans votre zone de confort a du sens lorsque c'est pleinement assumé, surtout si vous préservez votre énergie pour autre chose. Par exemple, si vous avez de jeunes enfants ou prenez soin de parents vieillissants, ce serait une excellente stratégie pour garder l'équilibre. Vous pourriez aussi avoir des passions en dehors du travail ou devoir composer avec des enjeux de santé, vous obligeant à limiter vos ambitions. En revanche, votre zone de confort pourrait représenter un mur à abattre si vous en venez à la conclusion que rester immobile ou stagner, c'est reculer. Notamment, si vous vous sentez enfermé dans une routine, vous considérez avoir un potentiel ou des talents sous-utilisés, vous ressentez un besoin de plus en plus pressant de vous renouveler ou de gagner en créativité, alors sortir du cadre devient un passage bénéfique. Il est donc essentiel de reconnaître que chaque personne a un rapport unique avec sa zone de confort et qu'en sortir ou y rester doit rester une décision en accord avec ses valeurs, ses propres besoins et ses aspirations. Si vous jugez que le moment est opportun pour une remise en question, je vous encourage à y aller en deux étapes. Élargir sa zone de confort. L'idée de s'aventurer hors de sa zone de confort ne se résume pas à tout bouleverser du jour au lendemain. Vous pouvez y aller progressivement en repoussant vos limites. En d'autres mots, tout en conservant votre situation actuelle, il est possible de créer des moments d'inconfort en apportant de petits changements ou des ajustements dans votre routine. Vous pourriez chercher à collaborer avec de nouveaux collègues au travail, prendre davantage la parole lors des réunions, soutenir une cause, voyager dans des pays étrangers pour interagir avec des personnes de différentes origines ethniques et religions, explorer des activités qui vous ont toujours fait envie, vous inscrire à une formation hors de votre domaine ou vous fixer des objectifs de dépassement. Chaque petite victoire sur vos habitudes va contribuer à diminuer votre risque de stagnation, mais surtout à gagner en confiance et renforcer votre résilience. Explorer de nouvelles approches ou façons de faire vous permet donc d'apprivoiser votre sentiment de vulnérabilité en prévision de transformations plus tranchées ou audacieuses. Sortir de votre zone de confort. S'extraire de votre zone de confort, c'est faire face à l'incertitude et possiblement remettre en question certaines croyances par rapport à ce que vous croyez être vos limitations personnelles. C'est donc accepter de se confronter à soi-même et d'adopter une mentalité de croissance sur les plans personnels et professionnels. Un bon exemple de cela est de prendre une pause professionnelle ou un congé sabbatique afin de faciliter une véritable remise en question. Vous pourriez aussi vous impliquer dans des initiatives ou des projets d'envergure chez votre employeur pour développer de nouvelles compétences et gagner en confiance le moment venu de les déployer. Mais attention, la recherche portant sur la fixation d'objectifs a documenté la relation entre le niveau de défi que l'on se fixe et l'apprentissage que l'on en retire. Cette relation prend la forme d'un U inversé. Pas assez de défis et vous êtes à risque de stagner, tandis que des défis trop élevés et rapides élèvent sensiblement le niveau de stress ou d'anxiété, ce qui peut vous mettre en situation d'échec. En fait, le mieux est de rechercher une suite de défis qui vous stimulent sans vous étrangler, avec des plateaux pour vous permettre une certaine récupération. Si votre volonté de changement est élevée, vous pourriez aussi envisager une transition professionnelle radicale, comme un mouvement de carrière latérale dans un autre domaine, ou repartir à neuf chez un nouvel employeur, peut-être même dans une autre industrie. Alors, il ne faut pas négliger l'importance de bien se faire accompagner. Pour terminer, soyez aux aguets. Si vous avez l'intention de sortir de votre zone de confort, soyez conscient que la peur de l'inconnu, de l'échec et de la critique sociale sont autant de freins qui peuvent vous ramener au statu quo et à votre attachement au sentiment de sécurité. C'était élargir sa zone de confort, puis en sortir. Un texte d'Alain Gosselin, paru le 1er octobre 2024 dans La Presse.
À la recherche des Morning Women du Québec. Un texte de Benoît Lelièvre, paru le 19 août 2024 dans Urbania. Elles existent, mais pas encore dans les postes de grande envergure. La grande rentrée radiophonique s'amorce avec, comme toile de fond, une nouvelle rivalité matinale. Patrick Lagacé au 98,5 contre Mario Dumont sur Cube Radio. Un véritable choc des titans, comme l'a dramatiquement formulé le 7 jours. C'est littéralement ce dont tout le monde parle en ce moment dans le milieu. Il faut dire que, dans le monde de la radio, le poste de Morning Man est à la fois l'un des plus exigeants et prestigieux. Si, d'une part, on doit se lever de bonne heure et être sur le piton en titi pour livrer la marchandise, devenir la voix qui accompagne les Québécois du réveil au bureau et alimenter leur conversation pendant toute la journée est la plus grande consécration offerte par le médium. Et je dis bien « morning man », parce que ces voix sont traditionnellement masculines. De Paul Arcand à Alain Gravel, en passant par Lagacé, Dumont et Patrick Masbourian, on s'est historiquement pas mal toujours fait réveiller par des hommes. Ce n'est pas systématiquement le cas. Allô, Marie-France Bazot. Mais le matin, les femmes sont l'exception plutôt que la règle. Et pourquoi donc? Est-ce qu'une femme aurait pu prendre la place d'un des antagonistes de ce choc des titans? Même si j'ai déjà ma propre idée sur la question, j'ai décidé de partir à la recherche des Morning Women du Québec afin de mieux comprendre la place qu'elles occupent dans le paysage radiophonique de la belle province. Un milieu sexiste? Pas exactement. Quand j'utilise l'expression « Morning Women », je fais référence à une animatrice d'émission d'information qui traite des actualités de la journée. Oui, il existe plusieurs émissions matinales de variété sur les ondes avec une foule d'intervenants et intervenantes et qui sont animées par des femmes, mais ce n'est pas ce dont on parle ici. Les Morning Women du Québec ne sont pas majoritaires dans le milieu, mais elles ne se sentent pas nécessairement victimes d'un milieu sexiste. J'en ai trouvé quatre, dont deux qui ont accepté de me parler pour cet article. Julia Caron, animatrice de Québec AM sur les ondes anglophones de CBC à Québec, oui, oui, ça existe, depuis 2020, et Catherine Gaudreau, qui a animé « Que la Mauricie se lève » pendant plusieurs années sur les ondes régionales du 106,9. Elle a cédé sa place à Alexis Sanson en 2022 pour prendre la barre des émissions du midi et du retour à la maison. Je suis certain qu'il y en a d'autres. Et qu'il y en a eu d'autres que celles nommées dans cet article par le passé, mais elles ne sont tout de même pas très nombreuses dans le domaine de l'information. Et dans ce milieu, l'animation, c'est la grosse job. L'émission Québec AM a été animée par plusieurs femmes, mais pas que, depuis le tout début, m'explique Julia Caron au téléphone. Elle me révèle notamment que l'autrice à succès des romans de l'inspecteur Armand Gamache, Louise Penny, fut l'une d'entre elles dans les années 80 et 90. J'ai eu ma chance en 2019 lorsque l'animatrice de l'époque, Susan Campbell, a décidé de retourner sur le terrain. C'était une décision très atypique. Quand on obtient un poste d'animation, d'habitude, on le garde jusqu'à la fin de sa carrière. Si Julia admet avoir été victime de sexisme de la part d'auditeurs, un de ses voisins qui la surnommait Miss Météo, et en périphérie du milieu, en rapport à son habillement ou même à sa taille, mais jamais par le monde de la radio. Même son cloche du côté de Catherine Gaudreau. J'ai été poussée et mise de l'avant par des hommes et des femmes formidables, affirme l'animatrice trifluvienne. Catherine a obtenu son poste après les attentats d'Ottawa en 2014, alors que ce qui devait à la base être un bulletin spécial s'est transformé en émission de 2 heures où elle a pu démontrer toute l'étendue de son talent. Elle prendra les rênes de « Que la Mauricie se lève » et un rôle de co-animatrice à l'émission du Doc Mayou dans les mois suivants. J'ai jamais senti qu'on me plaçait là parce que j'étais une femme. J'ai eu des rétroactions d'auditeurs qui me disaient qu'ils n'étaient pas convaincus par l'idée d'avoir une femme à l'animation le matin pour leur parler, entre autres de sport, mais ce n'était pas hostile, explique Catherine. Les deux femmes s'entendent toutefois pour dire que la tradition de confier à des voix masculines l'animation des émissions matinales à la radio vient d'habitude profondément ancrée dans les mœurs de la province plus que d'un milieu ouvertement sexiste. Les gens ne peuvent pas entrevoir une possibilité si elle n'a jamais existé pour eux. S'ils n'ont jamais entendu de femme à la barre d'une émission matinale, c'est pas quelque chose qu'ils vont prendre en compte, affirme Julia Caron de CBC. À l'époque, il y avait peut-être une crainte. Il faut aussi prendre en compte que ces postes viennent avec beaucoup de pression dans les grandes villes. C'est pas tout le monde qui veut ça, renchérit Catherine Gaudreau. La prochaine grande Morning Woman du Québec. Bien sûr, cet article ne se veut pas un désaveu du travail de Patrick Lagacé, de Mario Dumont ou même de Patrick Masbourian, qui lui aussi tire son épingle du jeu le matin. C'est juste que, mettons qu'on vivrait dans un univers alternatif où une femme avait un de ses postes. Qui aurait pu être la candidate idéale? Wow! C'est vraiment une bonne question, se sont exclamées les deux animatrices avec à peu près la même intonation. Après quelques secondes de réflexion, le choix de Julia Caron s'est arrêté sur la journaliste Nathalie Ndongo. Celle-ci anime présentement l'émission culturelle de Bridge sur les ondes de CBC et contribue à « Plus on est de fou, plus on lit » à la radio de Radio-Canada. C'est quelqu'un qui a une excellente compréhension de la société québécoise et de ses enjeux, me dit-elle. Le nom d'Élisabeth Crête vient spontanément à Catherine Gaudreau. En plus, la journaliste anime déjà une émission matinale, la fin de semaine, sur les ondes du 98,5. Les auditeurs étant familiers avec elle, une transition vers un rôle en semaine serait semblable à celle que vient de faire Ève-Marie Lortie à la barre de Salut Bonjour en juin dernier. Les Morning Women ne sont peut-être pas encore en vue dans les postes d'envergure comme celui qu'occupait Paul Arcan, mais elles font néanmoins partie du paysage médiatique de cette heure de grande écoute et elles réussissent en leurs propres termes. Moi, j'irai pas faire un job comme ça en ville. Je suis très heureuse dans mes fonctions actuelles, affirme Catherine Gaudreau. Si une conclusion émerge de mes rencontres, c'est que les mentalités évoluent, et ce, même dans un milieu perçu comme plus conservateur, comme la radio. Selon moi, c'est une simple question de temps avant qu'on ait une morning woman à la barre d'une émission d'envergure. Maintenant, reste plus qu'à trouver un nom plus original et inclusif aux rivalités des grands micros que le choc des titans. Et on sera prêt. C'était « À la recherche des Morning Women » du Québec, un texte de Benoît Lelièvre, paru le 19 août 2024 dans Urbania.
De plus en plus de Québécois se tournent vers le privé pour des soins de santé. Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne, paru le 15 octobre 2024 dans Le Devoir. De plus en plus de Québécois se tournent vers le réseau privé de la santé pour recevoir des soins, selon un coup de sonde dévoilé mardi matin dans le Journal de Québec. Que ce soit pour un vaccin ou pour une chirurgie, au cours des 5 dernières années, le taux de Québécois qui optent pour le réseau privé pour obtenir des services médicaux a augmenté de 17 %. En payant eux-mêmes pour le service ou avec une assurance, 42 % des répondants ont dit avoir eu recours à des services non couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, au cours des 5 dernières années, alors que cette proportion était de 25 % en 2019. Les résultats du sondage de la firme Léger montrent également que 39 % des personnes estiment que la qualité des soins de santé du réseau public est moins bonne qu'au privé, alors que 8 % croient que c'est au public que la qualité est meilleure. Le sondage a été réalisé du 27 au 29 septembre auprès de 1002 Québécois. Il n'est pas possible de calculer une marge d'erreur pour un échantillon en ligne, mais habituellement la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille serait de 3,1 %, 19 fois sur 20. L'enjeu de l'accès aux soins. La pandémie a souvent été citée au cours des dernières années pour expliquer la dégradation de l'accès aux soins. Or, 56 % des Québécois pensent que les services de soins de santé sont pires qu'avant 2019. Seulement 5 % estiment qu'ils sont meilleurs et 23 % sont d'avis que c'est du pareil au même. Nous sommes très conscients des difficultés d'accès aux soins et c'est pourquoi améliorer l'accès est notre grande priorité, a commenté sur X le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il a cité des exemples de mesures que son gouvernement a mis en place pour améliorer l'accès aux soins, dont le guichet d'accès à la première ligne, GAP, pour prendre rendez-vous avec un médecin de famille. Il a souligné également que plus de pouvoirs ont été accordés à certains professionnels pour mieux soigner la population, notamment les pharmaciens et les infirmières praticiennes spécialisées. M. Dubé a aussi mentionné que le réseau de la santé a temporairement recours aux centres médicaux spécialisés pour rattraper le retard accumulé en chirurgie. Sur cet enjeu, le sondage montre que les Québécois sont divisés. Une proportion de 38% des répondants affirment que l'on devrait encourager le recours aux cliniques privées alors que 37% s'y opposent. Le quart des personnes sondées se sont abstenues de répondre à cette question. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin, a réagi sur la plateforme X. Personne ne se lève en disant « J'aimerais vraiment ça payer pour un service que je paie déjà par mes impôts. » Pourtant, de plus en plus de Québécois se sentent obligés de le faire, car Christian Dubé n'offre plus ses soins dans un délai acceptable. On observe par ailleurs des différences entre les générations quant au fait de débourser pour un soin de santé. Les résultats indiquent que la moitié des 34 ans et moins ont payé pour des soins médicaux au cours des 5 dernières années. Pour la même période, 36% des 55 ans et plus ont dépensé pour de tels services. Les parents sont également plus nombreux à avoir sorti leur portefeuille pour des services médicaux. Le sondage montre que 65% d'entre eux ont déboursé pour cette raison, comparativement à 37% des Québécois sans enfants. Dans le contexte des négociations entre le gouvernement et les fédérations de médecins, M. Dubé a ajouté que l'accès est le cœur des négociations en cours. C'était « De plus en plus de Québécois se tournent vers le privé pour des soins de santé ». Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne, paru le 15 octobre 2024 dans Le Devoir.
Comment mieux se préparer à une prochaine pandémie? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 16 octobre 2024 dans la presse. Des experts saluent le rapport qui a été présenté au gouvernement pour mieux se préparer à une prochaine pandémie. Intitulé « Il est temps d'agir », le document a été rendu public sur le site de Santé Canada la semaine dernière. Ses auteurs, 7 médecins provenant de différentes universités, ont discuté avec plus de 300 personnes impliquées dans la gestion de la COVID-19 pour émettre leurs recommandations. Ils évoquent la nécessité, en situation de crise, de produire rapidement des données scientifiques sur lesquelles le gouvernement pourra s'appuyer pour prendre des décisions éclairées, d'assurer une meilleure coordination entre les différents paliers décisionnels en concertation avec les scientifiques, de ménager les populations plus vulnérables qui ont été les plus touchées par la pandémie, de financer la recherche. Bref, selon les auteurs, des changements en profondeur doivent s'opérer pour qu'on soit mieux préparé advenant une nouvelle pandémie. La presse a sondé 5 acteurs du domaine qui ont examiné la gestion de la crise sanitaire, mais qui n'ont pas participé au groupe de travail. C'est un excellent résumé des défis auxquels nous avons fait face, commente la docteure Caroline Quashtan, microbiologiste infectiologue au CHU Sainte-Justine. Même son de cloche chez la docteure Kelly Lee, titulaire de la chaire de recherche du Canada en gouvernance de la santé dans le monde et professeure à l'université Simon Fraser, qui nous dit « Le rapport identifie les points faibles qui ont entravé la coordination des efforts pendant la pandémie. Ces défaillances ont eu des répercussions immédiates sur le système de santé, mais aussi des implications à plus long terme sur la confiance du public dans le gouvernement et la science. » Pour le Dr. Peter Singer, professeur émérite de l'Université de Toronto et ancien conseiller du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le document met le doigt sur les dysfonctionnements dans les rouages du système, lesquels ont eu des répercussions à plus haut niveau. C'est un peu comme la plomberie d'une maison. Si elle ne fonctionne pas bien, on peut avoir de gros problèmes, lance le docteur Peter Singer. Des bémols. Si globalement les experts interrogés par la presse accueillent favorablement cette publication, certains ont relevé quelques lacunes. Pour Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et auteur de l'essai « Pandémie », quand la raison tombe malade, toutes ces recommandations sont assez générales. C'est de la tarte aux pommes, ajoute-t-il. Monsieur Mousseau déplore que certaines stratégies présentées comme des solutions n'aient pas été quantifiées. Par exemple, le nombre de vies qui auraient pu être sauvées si Ottawa avait agi différemment. Aussi, le rapport n'explore pas les mesures directes qui ont été mises en place, comme les vaccins, le confinement ou encore la fermeture des frontières. Il aurait fallu faire une analyse beaucoup plus détaillée de ce qu'on a bien ou mal fait pendant la pandémie afin de faire des recommandations plus pointues et pertinentes, soutient M. Mousseau. Pour Kevin Bardoche, anthropologue à l'École de santé publique de l'Université de Washington, les impacts sur la société et les libertés individuelles n'ont pas été abordés suffisamment en profondeur. Il y a un biais systémique qui ressort, dit-il. La santé publique a tendance à surestimer les bénéfices de ces recommandations et à minimiser leurs conséquences négatives. Durant la pandémie, on a créé une société où le monde avait peur, où on se voyait les uns les autres comme des dangers potentiels. Cela a eu de lourdes conséquences qu'on subit encore aujourd'hui, croit-il. Et maintenant, selon tous les experts interrogés par la presse, une question reste en suspens. Le fédéral va-t-il tenir compte des conclusions du rapport? Et si oui, à quelle échelle? Je suis curieux de voir jusqu'où le gouvernement va aller dans l'application de ses recommandations, indique le Dr. Peter Singer. De tels documents concernant la gestion d'une crise sanitaire ont déjà été publiés en 1993 pour faire face au VIH ou encore en 2003 pour lutter contre le SARS. Bien que certains progrès aient été effectués depuis, bon nombre des recommandations du rapport de 2003 demeurent importantes et sont reprises ici, indique-t-on, dans celui de 2024. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, conclut le Dr. Peter Singer. La presse a contacté Santé Canada lundi. Mardi soir, le ministère n'avait pas encore répondu à nos questions. C'était « Comment mieux se préparer à une prochaine pandémie », un texte de Chloé Bourquin, paru le 16 octobre 2024 dans la presse.